La première, bien sûr.
Est-ce que le fait d'avoir été en exil, il y a eu une suspension de la loi de moi,
elle n'était pas encore promulguée. Ici, pourquoi la faute est grave? C'est parce que la faute apparaît après le Matan Torah. Ils ont entendu qu'est-ce qu'il y avait dans cette loi, mais ils ne l'ont pas encore reçu comme contrat. Okay? Alors Moïse dit, ben, je préfère briser la loi que pour sauver le peuple.
Okay. Est-ce que c'est pas trop facile? Est-ce que c'est pas ouvrir une porte comme ça de jouer avec la loi? C'est-à-dire que si les gens ne sont pas au niveau, eh bien, la loi qu'on leur avait promise, ils ont déjà entendu parler, mais après on l'efface, on la suspend transitoirement, pourquoi ne pas recommencer?
Ben justement. Bon, mais tu vas donner.
Et Dieu finalement le félicite.
Mais c'est pas n'importe qui les personnages, c'est Moïse et Dieu. Ah, non, mais tu vas justement. Mais tu vas donner toi-même la réponse à cette question. Ça veut dire qu'une telle conduite de la morale n'est possible que pour une conscience de bonne foi. Il y a un affrontement entre la réalité et la vérité. Okay? Alors il est bien, et ça se relie d'ailleurs à ce qu'on a appris à propos du repentir. Je vais le citer tout à l'heure. Cela n'est possible que pour une conscience de bonne foi. C'est évident. Okay. Et rattacher ça au problème du repentir. Vous vous rappelez, je pense qu'on l'a étudié. Celui qui dit, je sais que la clause du repentir est possible. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est le même problème? Okay. Il dit, celui qui se dit, je sais que la clause du repentir est possible. Eh bien, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai besoin de fauter. Je vais fauter, demain, je me repens. Celui-là, on n'accepte pas son repentir. Pourquoi? Parce qu'il y a une clause de bonne foi. Habituez-vous bien à cela. La morale juive, enfin la morale de la Bible est très difficile. Parce qu'elle s'adresse aux tzadiques. Il faut une option de la bonne foi, alors la vie selon la loi est praticable, malgré le décalage entre la vérité et la réalité. Mais s'il y a mauvaise foi, alors évidemment, on est hors la loi. Et il y a un grand principe dans la morale juive. C'est que toute chose, même la plus apparemment insignifiante, a priori, c'est absolument énorme, interdit. On va détruire le monde. C'est arrivé, ça peut s'arranger. Alors vous allez me dire, quel genre de morale c'est ça? C'est la morale la plus difficile. A priori, pas question. A posteriori, on va recoller les morceaux. Mais en sachant très bien que chaque fois qu'il y a brisure, les morceaux se recollent à un niveau inférieur. C'est ça l'enjeu. Okay? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez bien ça dans la vie de tous les jours, d'ailleurs? Et là, cette première leçon qui nous est donnée. Vous apprendrez ces termes par la suite en hébreu. A priori d'une faute, impossible. C'est arrivé dans la réalité. Alors il y a une stratégie de capara. Mais chaque fois, on descend de niveau, c'est évident. Sinon, encore une fois, pour répondre à ta question, c'est que cette tradition morale ne peut être basé que sur la bonne foi. S'il y a mauvaise foi, il y a divorce. Tout de suite.
L'État des soldats était identique.
J'entends pas, pardon.
Les soldats étaient identiques.
Oui. Non. Vous verrez. D'abord qu'il y a des mots qui ne sont pas les mêmes. Mais en fait, c'est à un niveau tout à fait autre. Okay. Les premières tables, c'est a priori de la faute. C'est le contrat est absolu. Voilà la charte d'identité. Tu coïncides, tu es Israël, tu coïncides pas dehors. Okay. Sans discussion. Okay. Cette charte, c'est en même temps une carte d'identité. Voilà qui tu es Israël. Qui se reconnaît là-dedans, c'est Israël. Qui ne se reconnaît pas, c'est plus Israël. Vous suivez? Bon. Les deuxièmes tables, c'est voilà l'idéal à réaliser. Okay. Et si tu es comme ça, c'est très bien. Si tu n'es pas comme ça, on pourra te récupérer. Mais tu seras un récupéré. Oui, le deuxième niveau.
Est-ce que ça peut faire un parallèle avec le Gan Eden? C'était le monde de la vérité, et on est récupéré par tout ce par là où on passe, mais pourquoi arriver là?
Dans un tout autre thème. Ça ressemble formellement, mais ce n'est pas exactement comme ça. La différence entre le Gan Eden et le Olam Haba, c'est que le Gan Eden et le Olam Haba, c'est la même chose. Mais un, le Gan Eden avant de l'avoir mérité, et le Olam Haba après l'avoir mérité. C'est la même chose dans le contenu. Mais dans la relation de mérite, c'est radicalement différent. Est-ce qu'on n'a pas déjà étudié cela? Bon, ça, donc, vous le verrez plus tard. C'est pas que le... Mais... notez cette question-là. Qui a posé la question? C'est toi, oui. On l'étudiera peut-être au cours de cet après-midi. Rappelez-moi en relation avec la Shoah. Bon, écoutez, je crois qu'on a peut-être vu suffisamment ce premier point. C'est la différence entre le Hevra et les tribus d'Israël. C'est clair ? Et maintenant, je voudrais aborder le deuxième point. C'est la définition de Am Kesher Oref, par laquelle Dieu motive. Alors, vous allez prendre 10 minutes pour relire le texte. Surtout, et je reviens tout de suite, surtout ceux qui n'étaient pas là vendredi, relisez attentivement le chapitre 32, okay, en 10 minutes. Ne perdez pas de temps et je reviens. C'est-à-dire que, c'est quelque chose qui est connu d'autre part, que je ne veux pas répondre de façon circonstanciée, ça va nous prendre tout le quart d'heure. Repose-moi cette question cet après-midi. Okay. Est-ce qu'on n'a pas étudié, au moment du commencement de l'histoire d'Abraham, dans la relation avec Sodome et Gomorre, avec Lot à Sodome et Gomorre, la guerre que Abraham a dû faire, et que déjà à ce moment-là, l'exil lui a été annoncé? On a étudié cela. Et qu'il y avait déjà indiqué cette clause qu'il faudra ramener. On n'a pas étudié ça. Bon, alors vous vous rappelez cet après-midi, vous prendrez alors cet après-midi, pas seulement chez moi, mais aussi Bereshit, que je vous donne la référence. Pour le moment, provisoirement, retenez cette idée. Il y a une sorte d'inachèvement de la nation d'Israël dans son identité profonde. Ce n'est pas simplement une question de nombre d'individus, puisque finalement nous voyons que les 4/5 des Hébreux se perdent en Égypte. Okay. Et qu'une des fonctions de l'exil, c'est de réaliser ce parachèvement, disons. Et que ce qui m'étonne, c'est que vous ne perceviez pas par vous-même. Je vous répète ce que je vous ai dit souvent et je l'ai répété encore vendredi matin. Essayez de penser ce genre de questions-là à l'intérieur d'un monothéisme total. C'est-à-dire qu'il y a la même providence, bien qu'à des niveaux différents, pour Israël et pour le reste de l'humanité. Cette histoire qui est racontée à travers l'identité d'Israël concerne l'humanité tout entière. Alors, admettons comme postulat qu'il y a à l'échelle individuelle, en dehors d'Israël, chez les autres nations, des individus dont le statut est analogue. Et par conséquent, que ce fait que ce que je vous ai appelé la naturalisation en Israël est possible, ce qui a priori pose un problème. A priori, s'il y a une élection d'identité aussi radicale de la définition Israël, l'idée d'un givour serait impensable. Okay, vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez dû étudier cela avec Benoît Gross sur le séminaire sur Judas-Lévi. Okay, je pense que, comme je connais un peu sa manière d'enseigner, il a dû mettre l'accent là-dessus. Qu'il y a, a priori, moi je ne suis pas tellement d'accord dans la forme, mais enfin le contenu est pratiquement le même, il y a a priori une différence d'essence entre l'identité Israël et le reste de l'humanité. Vous avez dû étudier ça à propos de Mana Eloki. On en a parlé une fois et je vous ai demandé de nuancer cela, parce que c'est une question de vocabulaire qui n'est pas tellement exacte. Okay, mais on ne peut penser ce problème qu'à l'intérieur d'un monothéisme total, cohérent. Et par conséquent, le fait que l'identité Israël est radicalement différente à l'échelle collective, mais à l'échelle individuelle, il peut y avoir, dans toutes les autres nations, des individus dont le cheminement de Goral, comment dire, de leur destinée, a été celui d'Abraham, chacun à son niveau. Alors ils sont d'Israël dans le principe. Vous comprenez? Et par conséquent, en ce qui concerne la sortie d'Égypte, la fin de l'exil, étant donné que pour Israël, toute cette histoire de l'exil, c'est une dialectique d'expérience Galout-Géoula, qui a vécu la même dialectique et candidat à être le fidèle de ce Dieu unique dont la Torah parle. Qui a vécu l'exil d'Égypte et la Géoula d'Égypte fait partie de ceux à qui Dieu s'adresse lorsqu'il dit « Je suis votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte ». C'est clair? Et par conséquent, le fait qu'une foule ait assailli Moïse au moment de la sortie d'Égypte, vous sortez, vous passez dans l'autre monde, on passe avec vous. Eh bien, fait partie de ce problème. Et la question, la difficulté vient du chipazone, c'est-à-dire de l'accélération des événements qui a fait que le pain n'a pas levé. Qu'on commence toute cette histoire avec un pain non levé. On n'a pas eu le temps. Okay. Et donc, vous voyez, ces deux niveaux. Qu'il y ait eu, quelle que soit leur raison, des hommes qui ont voulu s'adjoindre à Israël, c'est ça la conversion, c'est ça la naturalisation. Nous sentons, on ne sait pas pourquoi, que nous faisons partie de votre histoire. Et Moïse de leur dire, Bevakasha, la porte est ouverte, c'est pour ça que l'histoire est faite, que cette histoire est faite. Seulement, ils sont dans un état tel qu'ils portent en eux un handicap pour Israël. Et là, au niveau de la vérité absolue, on ne peut pas les accepter tant qu'ils ne sont pas compatibles. Vous avez compris tout à l'heure cette difficulté. Non, mais j'ai bien entendu le sens de ta question. Ça veut dire, s'il y a, et il y en a d'autres, mais s'il y a une fonction à l'exil, c'est bien celle-là. C'est le fait de revenir enrichi de toutes les Neshamot qui font partie d'Israël dans le principe, mais que l'histoire a fait qu'ils sont restés chez les Goyim. Mais je vous donnerai les textes dans l'histoire d'Abraham ce soir. Et ça fait partie de ce genre de problème qu'en principe, la question, c'est pourquoi il se pose une question. Ça devrait aller de soi. Mais je comprends très bien pourquoi. Parce qu'à travers 2000 ans d'exil, on a fini par être habitué à l'idée d'un monothéisme restreint à un dieu tribal. Que le dieu unique dont on parle, c'est le dieu d'Israël et que ça. Et alors, et les autres? Et qu'est-ce que c'est que... La Torah commence à la création du monde pour nous apprendre que ce Dieu dont on parle, c'est celui qui a créé tous les univers et donc toute l'humanité. C'est à ça qu'il faut se réhabituer. On ne peut pas comprendre tout ce que la Torah enseigne du point de vue du sens de l'histoire d'Israël si on ne comprend pas qu'elle concerne d'emblée dans le principe l'humanité tout entière. Et donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question. La question, c'est qu'une question se pose à vous. Mais je comprends pourquoi elle se pose à vous. Donc, vous avez compris ? Et je sais, l'expérience montre qu'il vous faudra des années, des dizaines d'années d'efforts pour arriver à hausser le monothéisme juif à ce monothéisme réel dont parle la Torah. Je sais qu'on a une espèce de panique de penser les choses à ce niveau. Comment le Dieu qui est providence d'Israël, c'est le créateur de l'univers tout entier, et donc la providence de tous les êtres vivants, les araignées y compris, plus les goïms. Il faut arriver jusque-là. Je sais que c'est difficile. qui a pressenti au moins l'envergure du problème? Okay. Et par conséquent, quand vous avez... Oui, la difficulté, c'est que vous recevez, pour le moment, des bribes, enfin, ce qui s'intègre dans votre mémoire ou dans votre connaissance, mais qu'il faut bien comprendre qu'il y a une synthèse unique. Et que chaque chose doit être à sa place, à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Dès que chaque chose est reliée à l'endroit où elle est, il n'y a plus de question, tout est simple. Mais tant que vous êtes encore dans le chaos des bribes de connaissances, ça va s'entrechoquer. C'est inévitable. Est-ce que c'est clair? Tout ce que je peux faire, c'est vous donner la perspective à quel niveau il n'y a plus de contradiction. Mais tout ça, il faut que vous le viviez dans l'expérience spirituelle personnelle, personnellement, okay, d'arriver à intégrer cela. C'est que, je vous donnais ça dans un autre thème, l'histoire c'est un tri. Il y a une certaine identité qui est mise en jeu dans l'histoire. Elle doit faire la preuve d'elle-même. Elle va dire qui elle est. Il y a un tri qui se fait. Et à travers l'histoire, eh bien, ce qui est d'Israël vient en Israël. Ce qui n'est pas d'Israël quitte Israël. Seulement, on n'a pas l'habitude de dire les choses de façon si tranchée, et j'en ai souvent parlé, parce que l'histoire, d'autre part, a une patience infinie. On n'a pas le droit de, comment dire, d'ultimatum d'interpellation. Okay? Tout de suite, maintenant, on va décider qui est là, qui est là. Qu'est-ce que tu en sais? Attends la fin du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une patience infinie. Le problème, c'est qu'il y a des péripéties où les événements sont accélérés. Est-ce qu'on aura le temps? Mais en principe, tant que Dieu attend, eh bien, il faut attendre pour le jugement. Le jugement, c'est le jugement dernier. Vous voyez ce que je veux dire? Et il n'y a pas de doute que l'histoire de l'exil fait partie de ce problème. C'est une mise en jeu en vue d'un tri. C'est l'exil qui fait que ceux qui sont d'Israël reviennent en Israël, ceux qui ne sont pas d'Israël ne reviennent pas en Israël. Voilà. Et dit de façon aussi exagérée, j'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que Dieu attend. Alors c'est pas aujourd'hui, ce matin, à 1h05, qu'on va faire le jugement. Le jugement se fera en fin de compte. Mais il y a bien un problème de tri. Et par conséquent, et c'est ça qu'on va étudier plus en détail ce soir, tout se passe comme si une certaine quantité d'âmes qui fait partie d'Israël mais qui est perdu chez les Goïm, doit rejoindre Israël pour que la Géoula soit réelle. Est-ce que c'est clair? Bon. Et les processus par lesquels ça passe, il n'y a que les Talmidei Chachamim qui les comprennent. C'est pas visible. C'est pas visible, c'est un tri qui se fait. Et c'est pas visible. Voilà, c'est à l'intérieur de ce, si vous voulez, à l'intérieur de ce principe qu'il faut comprendre votre question. C'est-à-dire que si vous voulez, rattachez ça au problème du Guillour. Comment, et c'est une des grandes difficultés de l'étude de Judas Lévi pour ceux qui n'ont pas suffisamment de familiarité avec le problème. Une minute. Il y aurait une contradiction, okay, s'il y avait une différence d'essence entre Israël et les Goïm, à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, c'est sûr, okay, mais à l'échelle individuelle, il y aurait une contradiction entre cela, différence d'essence, et que le Guillour soit possible. Vous comprenez ce que je veux dire? Or, qu'est-ce que c'est qu'un Guillour? C'est le fait de prendre acte que quelqu'un qui apparemment était chez les Goïm, en réalité fait partie d'Israël. Seulement, il y a un processus de dévoilement d'identification. C'est le temps de ce processus de dévoilement d'identification qui a manqué à Moïse. Mais il a pris le risque quand même. Parce qu'il y avait là un événement, Gorali, je ne sais pas comment dire, décisif, à l'échelle de la destinée collective d'Israël. Si on sort d'Égypte sans le Erev Rav, toute cette histoire de l'exil d'Égypte, c'est un coup pour rien. Il faudra recommencer. Moïse ne veut pas. Et vous allez voir différentes étapes. Moïse ne veut pas entendre cela, qu'il y a l'éventualité d'autres exils. Il est venu pour sauver Israël de l'Égypte comme si c'est la fin des temps, comme si on sort de ce monde-ci pour entrer dans le Olam Haba. Et quand il s'aperçoit qu'il faut recommencer à ce monde-ci, Olam Hazé prime, comment on dit, Olam Hazé bis, alors il passe le relais à Josué et donne rendez-vous pour la fin des temps. Mais toute son histoire ne peut être comprise que si on comprend cela. Il a un seul objectif, passer de Olam Hazé à Olam Haba. Okay? Et c'est en cela que cette histoire est notre modèle. C'est comme ça que ça se passe toujours, jusqu'au moment où ça réussira. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il prend acte qu'il faut redescendre pour repartir du plus bas, pour arriver jusqu'au plus haut, eh bien, il passe le relais à Josué. Tout simplement. Avec rendez-vous à la fin des temps. Est-ce que c'est un peu plus clair? Mais le fait que la Géoula n'est possible que si le Erev Rav vient avec, ça, c'est a priori. Parce qu'elle concerne aussi l'histoire des individus qui sont analogues de Neshama avec ceux d'Israël. Donc, si je comprends bien, au fond, on pourrait prendre ce problème par différents bouts. Je crois que c'est par celui-là qu'il faut commencer à y réfléchir. Okay? Le fait qu'il y ait une entité nationale collective Israël, mais qu'en dehors, il y a des individus qui, au point de départ de l'histoire, auraient dû faire partir de cette entité nationale, mais sont perdus dans les autres peuples. Et alors, une des fonctions de l'exil, c'est ce tri-là. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Mais, encore une fois, la décision n'appartient pas aux hommes, parce que nous ne connaissons pas, par définition, nous ne connaissons pas l'avant et l'après de la destinée de chacun. Et c'est pourquoi nous avons une législation très précise qui permet de diagnostiquer si c'est cachère ou pas. Mais Moïse savait a priori qu'il prenait sur lui tout ce risque-là. Il l'a pris quand même, pour le bien d'Israël. Et finalement, c'est ce élève-là qui a été intégré à Israël. Finalement, c'est intégré. Voilà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, maintenant je crois que vous êtes assez habitués, c'est que nous lisons la Torah pour la petite fenêtre que nous avons sur le développement de notre destinée historique entre la naissance et la mort. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qu'il est bien évident qu'on ne peut comprendre l'envergure de cet enseignement que si on arrive, et vous êtes peut-être encore trop jeune, et encore ça dépend qui, quoi. Il faut arriver à un certain âge pour arriver à percevoir l'évidence, qu'il est évident que mon existence n'a pas commencé à ma naissance et qu'elle ne se terminera pas à ma mort. Ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, ça nous échappe. Okay? Mais il est évident que, tant qu'on n'a pas rencontré ce principe-là, on ne peut pas penser le problème d'un enseignement concernant le sens d'une histoire qui traverse les individus et qui commence au premier homme et qui s'achèvera au Messie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, c'est un non-sens de supposer qu'on peut étudier la Torah avec l'idée que la destinée de chacun commence à sa naissance et se termine à sa mort. Cette loi-là du comportement, elle a une préface historique d'envergure métaphysique et pas du tout législative, purement et simplement. Où est-ce que je veux dire ? C'est pas un code de comportement, un point. Ça, n'importe quelle société peut avoir le sien. C'est le code de comportement pour ceux qui sont insérés dans l'histoire de la destinée du monde, depuis la création jusqu'à la rédemption. Bon, c'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre ces problèmes. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Plus ou moins. Non, mais et je vais vous dire une chose, et je vous l'ai dit depuis le début de l'année sous différentes formes. Et ce que je vous demande cette année, c'est d'essayer de comprendre le sens des mots que vous apprenez, mais c'est surtout d'apprendre. Parce que je sais très bien que comprendre de quoi il s'agit, il vous faudra des dizaines d'années. Est-ce que c'est clair ? Il faut apprendre qu'est-ce qu'il y a à comprendre. Et si telle chose vous comprenez, telle chose vous ne comprenez pas, c'est normal. Et est-ce que c'est clair ? Nous ne sommes pas en cours de je ne sais pas comment dire, de botanique. Okay ? Et c'est tout à fait normal, parce qu'il y a une dimension de... Il n'y a pas de mot en français pour dire ça. D'arriver à expérimenter dans la réalité ce qu'on a appris au niveau abstrait, au niveau des idées. Okay ? Et chacun a son rythme, et chacun a son passé, et chacun a sa mémoire, et chacun a sa capacité de rythme, en fait, tout ce que vous voudrez. Mais retenez bien une chose. Ce qu'il faut découvrir, et je pense que vous en avez suffisamment de pressentiments au moins, c'est que toute cette chorma, ça fait une unité absolue. Vous rencontrez par des petits coups de projecteur sur des petites facettes, des bribes. Et qu'il suffit de savoir profondément qu'un verset a été compris pour savoir que tous les autres sont dans le même cas. Et alors, si chacun se dit dans son expérience, oui, mais ça je comprends pas. Eh bien, c'est tout, c'est pas autre chose. Ça tu comprends pas. Un jour, tu comprendras ça aussi. Est-ce que vous comprenez ? C'est un procédé du raisonnement logique qui s'appelle le raisonnement par récurrence. Il y a des mathématiciens chez vous ? Vous savez ce que c'est que le raisonnement par récurrence ? Si une loi est vérifiée sur un point et un point plus un, c'est qu'elle est vraie pour toute la série. Mais pour les autres points, je ne comprends pas. Eh bien oui, tu ne comprends pas encore. Et ce point-là que tu as compris avant, tu ne comprenais pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est clair ? Bon, c'est à ça qu'il faut vous habituer. La Torah... Eh bien, c'est pas un livre pour faire des exercices de je sais pas quoi, 4 heures de cours par semaine pendant un an. La Torah, c'est la Torah. Chaque fois que vous avez une difficulté, eh bien, comprenez bien cela, il faut rattacher au principe de base. Et il est évident qu'il peut arriver que vous ne voyez pas par vous-même le lien. Un jour viendra où vous allez étudier tel commentaire qui vous éclairera le lien. Ça y est, c'est clair ? Peut-être que je vous l'expliquerai encore de la manière suivante. Et à partir du moment où vous avez eu l'expérience, et c'est pourquoi je vous aurais pas dit ça au début de l'année, mais à partir du moment où vous avez eu l'expérience que sur un point, le verset vous a enseigné quelque chose, c'est pas que vous lui avez fait dire quelque chose, que le verset vous a enseigné quelque chose, que de livrer à vos propres forces de conscience, vous n'auriez pas su par vous-même. Su par vous-même, ça veut dire les limites de la capacité de l'intelligence humaine absolue. Okay ? Eh bien, alors à ce moment-là, vous avez découvert l'attitude de l'étude. C'est le verset qui m'enseigne. C'est à lui de me dire qu'est-ce que je dois savoir, et pas l'inverse. C'est pas moi qui vais le faire parler. Vous avez compris ? Et si vous avez un problème de controverse avec le verset, sachez a priori que c'est le verset qui a raison. Et tant que vous n'avez pas compris en quoi il a raison, c'est que vous n'avez pas compris du tout. Je pense que vous avez eu assez d'expérience de cela dans l'exégèse, bien que, je peux vous dire, il me suffit de vous citer un enseignement de la Gemara. Un jour, un très grand haram de la Gemara parlait de ce qu'il avait appris de son maître. Il avait dit, j'ai appris de mon maître ce qu'un chien peut laper de l'océan une fois. Okay ? Je ne sais pas si vous réalisez l'image qui est donnée là. Mais sachez que c'est ça la Torah. Il vous suffit d'avoir eu, même au niveau des petites bribes, okay, expérience une fois, que c'est la Torah qui enseigne. Alors, à partir de ce moment-là, l'idée que la Torah peut se mettre en contradiction avec elle-même, ou être en contradiction avec votre opinion, c'est ch'touyot. Ça ne fait pas le poids. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça, je cherche un mot, mais vous l'avez compris par vous-même. c'est de l'orgueil infantile. Okay. Je pense que c'est clair. La vanité, c'est même pas de bêtises. Et alors, ça vous permettra d'économiser du temps. Okay. Quand vous avez des questions, notez-les. Jusqu'à ce que vous voyez que ce n'était pas des questions. Parce qu'il vous manquait des connaissances pour arranger deux opinions une avec l'autre. Ça y est, c'est clair. Et c'est pourquoi je vous répète mille fois, ne perdez pas de temps à lire des commentaires, surtout dans une autre langue, de tierce ou de quatorzième main. Apprenez les sources. Et un jour, vous verrez à quel point ce commentaire que je vous interdis de lire maintenant est enrichissant. Après, quand vous saurez les bases qu'il faut pour le comprendre. Sinon, ça peut que vous suggérer des fausses questions et de la perte de temps. Il n'y a rien de pire. Lorsqu'on sait que la manière d'être de l'esprit, c'est à travers le temps, une perte de temps. C'est de l'assassinat de l'esprit. Et de la perte de temps, c'est le crime le plus abominable. De temps de l'étude. De temps tout court, d'ailleurs. Vous savez que je vous l'ai cité une fois. Comment disent les Français ? On va tuer le temps. C'est de l'assassinat. Bon, on a tué le temps puisqu'on est arrivé à une heure. Et alors, on voit la suite cet après-midi à 2h. Chapitre 14, Ken, et ensuite chapitre 15, d'accord ? Alors, lisez ces versets et comparez-les. Le 14, Ken.
Dans Bereshit.
Et là, dans un contexte que vous lirez d'autre part, les deux versets qui annoncent l'exil en Égypte, déjà avec Abraham. Alors, il me semble, enfin, je ne sais pas, peut-être je ne l'ai pas fait, mais lorsque nous avons suivi le récit de l'histoire d'Abraham, est-ce qu'on n'a pas parlé de cela déjà ? Non ? Vous êtes sûr ? La relation entre Abraham et Lot ? On s'est arrêté avant ? Bon, ça va, bien. On enchaîne. Bon, vous retrouverez ça un peu dans votre mémoire. Alors, voilà ce que disent les deux versets où l'annonce de l'exil d'Égypte est donnée à Abraham. Alors, d'abord, verset 13. Vayomer le Abraham, et Dieu dit à Abraham, et ça fait suite au récit précédent de la guerre avec entre les quatre rois et les cinq rois, où Abraham est intervenu pour sauver Lot qui se trouvait à Sodome. Vous vous rappelez de cela ? Bon. Alors, et Dieu dit à Abraham, Yadoar Tedar, savoir tu sauras, qui guérie Zaracha, que ta postérité sera guerre, ça veut dire étranger. Okay. Premier sens de guerre, étranger. Ber et Solahem, dans un pays qui n'est pas à eux, et on ne nous dit pas encore quel est ce pays, bien que déjà depuis le commencement de tous ces récits, on va pressentir qu'il va s'agir de l'Égypte, mais la réponse est la suivante. D'abord, il s'agit de la préfiguration de tous les exils. Et le pays où on va en exil se définit ainsi Eretz Lolahem, un pays qui n'est pas le leur. Il faudrait lire d'ailleurs plus littéralement Eretz, une terre qui n'est pas la leur. Finalement, il se dévoilera que c'est l'Égypte parce qu'il s'agit, en règle générale, là où la civilisation du temps s'installe. Là où sera l'empire de la civilisation du temps. Alors, ça aurait pu être, suivant l'histoire des nations entre elles, ou l'Égypte, ou le Soudan, est-ce que je sais, moi, ou la Mésopotamie, ou... Vous voyez à peu près ce que je veux dire. C'est-à-dire, dans un temps de civilisation donné, là où sera le pays de la... métropole de la civilisation en question, là se fera l'exil. Et vous pouvez d'ailleurs conclure pour le temps de la civilisation actuelle qui a commencé il y a 2000 ans. Il s'agit de la civilisation de Rome, et c'est là où le foyer de la civilisation de Rome se dévoile que là-bas se trouve principalement le foyer de l'exil du peuple d'Israël. Et quand c'est Rome mamache, c'est Rome mamache. Si c'est un de ses satellites, une fois ça a été l'Espagne, une fois ça aurait pu être l'Angleterre, une fois ça peut être la Russie, une fois ça peut être l'Amérique. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que finalement, c'est là où se situe le foyer réel de la civilisation du temps. Est-ce que c'est clair l'idée qu'il y a là ? Bon. Dans tous les cas, on sait ou on ne sait pas encore déjà qu'il s'agira de l'Égypte, mais c'est le pays où on sera en exil. Varavadum, et on les asservira, on les persécutera, Abba Meotchana, 400 ans. Vous suivez ? Suivez sur le texte. Et on va se poser la question tout de suite, mais à cause de quoi une telle décision est donnée ? Okay. Verset suivant, Vegam et Agoy Asher Avodou, et même la nation qui les aura asservis, Dan Anochi, je la jugerai, Vahareche Nietzeu Bilchush Gadol. Et après cela, ils sortiront, vous voyez le terme de la sortie d'Égypte, Yetzeu, ils sortiront, Bilchush Gadol, comment on vous traduit? Plus fort, j'entends pas. Comment on vous traduit? Qui a sous les yeux la traduction? Oui. Oui, c'est le sens. Avec un grand butin, avec de grandes richesses. Richesse. Alors, c'est le mot de Rechouche. Rechouche, ça veut dire amasser des richesses. Donc. Et, alors, comment aborder cela? Et là, on voit une espèce de difficile à comprendre. Il va y avoir l'éventualité, le risque d'une grande d'un exil, d'une grande persécution, compensation, eh bien, vous sortirez avec des richesses. Okay. Ça ne fait pas le poids. Vous voyez où est la difficulté? S'il s'agit là d'une compensation, on se passerait de l'une et de l'autre. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Eh bien, voilà, vous allez avoir une histoire très difficile. Israël dispersé, Israël exilé, mais c'est pour votre bien, parce que vous reviendrez enrichi. Vous voyez la difficulté. Okay. Or, ce mot de Rechouche, qui est en question ici, on va le retrouver dans le premier contexte. Alors, prenez maintenant le verset 14. Voilà, en fin de compte, grâce à Abraham, le camp dans cette guerre entre les rois, le camp dans lequel se trouve Sodome et le roi de Sodome, où était Lot, et si Abraham a fait cette guerre, c'est parce qu'il avait appris que Lot était en danger. En tout cas, jusque-là, on était arrivé. Qu'Abraham s'est séparé de Lot, mais qu'il lui a promis protection. Vous vous rappelez de cela? Si tu vas à droite, je vais à gauche, je vais à droite, pour ne pas être loin de toi. Vous vous rappelez? Bon. Et puis finalement, il y a une guerre, et Abraham apprend, c'est dans les versets précédents, que Lot a été fait prisonnier, il entre dans la guerre pour délivrer Lot. Et par conséquent, il fait basculer la victoire dans le camp où Lot se trouvait, c'est-à-dire Sodome. Bon. Et après la victoire, verset 21 du chapitre 14, « Vayomer melech Sodome el Abraham. » Et le roi de Sodome a dit à Abraham, « Ten li anefesh, donne-moi, dans le butin qui a été fait, donne-moi les prisonniers, nefesh, c'est-à-dire les personnes, varechush kachlach. » Et le butin, garde-le. Prends-le pour toi. Ken? Vayomer Abraham. Et Abraham dit, El Melech Sodom, au roi de Sodome, Arimoti Yadi El Hashem. Littéralement, ça veut dire, j'élèverai ma main vers Dieu. C'est-à-dire, je jure. El Elyon, Dieu, l'être suprême, connaît Shamaim Vaharet, créateur du ciel et de la terre. Seroch Naal. Slicha. Que ce soit d'un fil au ve'ad seroch na'al ou d'un cordon de soulier, et ve'i mekar mikol asher lach. Je jure que je prendrai rien de tout ce qui t'appartient. Ve'lotomar et tu ne diras pas ani et echarti et Abraham. Moi, j'ai enrichi Abraham. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce récit? C'est que la guerre a été faite, elle a été gagnée, et au moment du partage du butin, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les prisonniers que tu as faits, et tout le reste du butin, garde-le. Et Abraham donc répond, en d'autres termes, garde et les prisonniers et tout le butin. Okay? Et ces deux contextes ont été reliés, c'est-à-dire les deux contextes que nous venons de lire. Et en partie, ce n'est pas tout le sujet qui est expliqué ainsi, mais en partie, on va relier cela. Et le fait qu'Abraham s'est entendu dire, dans le deuxième contexte, savoir, tu sauras que ta descendance sera exilée, est relié à ce qui se passe là, parce que le même mot a été employé dans les deux contextes. Quel mot? Rechouche. Vous avez remarqué cela? Bon. Alors j'explique, ensuite vous le verrez dans le verset. Tout se passe comme si là, il y a un épisode dont nous lisons en superficie, à première vue, que le récit, si vous voulez, de compte-rendu de la bataille et du résultat. Mais pourquoi la Torah nous a raconté cela? Qu'est-ce qui se passe là? Mais finalement, dans ce récit déjà superficiel, c'est que Abraham n'a pas voulu garder, intégrer en lui, chez lui, tout ce butin du résultat de la guerre. Alors il va être condamné à ce que sa descendance sera destinée à aller le chercher, ce butin-là, là où il se trouvera. En fin de compte, il s'avère que c'est tombé en Égypte. Il faudra donc aller en Égypte pour sauver ce butin qu'Abraham a laissé de côté. Ce rechouche. Vous y êtes ? Et je vais vous citer. Vous comprenez cela ? Comment ça se relie à notre question de ce matin ? Et je vais vous citer d'abord la citation du Talmud, mais brutale comme elle est, et ensuite on réfléchira pour essayer un peu de comprendre. Qu'est-ce qui est arrivé à Abraham ? Que semble-t-il, dès le commencement de la constitution de la Knesset Israël, de l'Assemblée d'Israël, il laisse en dehors des valeurs et des personnes qui auraient dû être en dedans. Vous y êtes ? C'est-à-dire, il y a deux problèmes à comprendre. D'abord, de quoi il s'agit dans ce thème-là ? Et deuxièmement, comment se fait-il qu'Abraham a fait ça ? Okay. Alors, je vous lis la citation du Talmud. D'abord, en vous donnant la référence dans le traité de Nédarim, une des références. Traité de Nédarim, 32A. Ce que je vais vous lire maintenant se trouve dans le traité de Nédarim 32a. Alors, notez-le, si un jour vous parlez de cela et qu'on vous demande où est la référence, si vous ne la connaissez pas, on va croire que vous l'avez inventée. Alors, moi, je suis toujours admiratif quand je vois pas noter les références. Vous savez déjà. Okay, c'est pour toi que je dis ça aussi.
Je marquais.
Ah bon. Et je vous dirai encore une fois, vous n'êtes pas au cinéma permanent, vous êtes ici pour travailler, étudier. Okay. Alors j'ai souvent l'impression que vous assistez à des conférences. Alors, notez bien ce que je vais vous dire. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan enseigne. Mi penema na'anash Abraham Avinu. Pourquoi Abraham, notre père, a été puni, c'est ce mot que je veux que vous notiez. C'est-à-dire, selon l'enseignement du Talmud, il y a là une punition. Et pourquoi Abraham, notre père, a été puni ? Venishtravenu banav le Mitzrayim, et sa descendance a été asservie en Égypte, Mataim ve'eser shanim, 210 ans. Ça vous relie avec le problème des différents nombres du temps de l'exil que nous avons étudié. Réponse : Mipene sheifrish bnei adam melikanes tahat kanfei hashchina. Parce qu'il a empêché des hommes d'entrer littéralement sous l'aile de la Shrina, c'est-à-dire d'entrer en Israël. Vous voyez que le jugement est très dur. Chez Néhémar, ainsi que dit le verset, Vayomer Meler Sdom, et le roi de Sodome a dit à Abraham, donne-moi les personnes et le rechouche garde-le. C'est-à-dire, je prendrai ça à un certain niveau. Nous savons qui est Sdom. Okay. Et Sdom, c'était l'endroit, la société la plus dépravée qu'il y avait en ce temps-là. Vous vous rappelez de cela ? Bon. Et le roi de Sodome, finalement, on pourrait se demander pourquoi Abraham a été l'allié du roi de Sodome dans cette guerre. C'est pour sauver Lot. Bon. C'est la réponse, on peut l'avoir. Et le roi de Sodome dit, eh bien, les prisonniers que tu as faits, donne-les-moi à moi, et puis le butin, garde-le. Non seulement Abraham lui dit, le butin aussi, tu peux le prendre, mais il laisse prendre les personnes. Vous voyez le problème ? Et il donne un argument. Qu'on ne dise pas, le roi de Sodome a enrichi Abraham. Finalement, tout ce rechouche va rester en dehors. Okay. Alors on retrouve le mot de rechouche dans le deuxième contexte. Alors d'où cet enseignement ici dans la Maseret Nedarim, que je vais maintenant formuler par rapport à notre sujet. Pourquoi cet exil a dû avoir lieu ? C'est parce que Abraham a laissé toutes ces personnes qui auraient pu être converties à l'identité d'Israël qu'il prépare rester en dehors. Alors, le thème continue. Et là où ces neshamot, ces valeurs seront tombées, là-bas il faudra que la descendance d'Abraham aille en exil pour les faire sortir avec eux. Vous voyez comment ça se relie à notre sujet de ce matin. C'est clair ? Bon. Alors là, la formule que je voudrais maintenant formuler est la suivante, et ensuite on abordera la question de fond. C'est-à-dire, pourquoi Abraham a fait ça ? Vous voyez qu'on est relié à des problèmes analogues. Pourquoi Moïse s'est conduit comme ça ? Pourquoi Abraham a fait ça ? Alors c'est bien de bien réfléchir. Il y a toute une stratégie de relation entre la réalité et la vérité qui n'est pas facile. Et c'est ainsi que les choses se sont faites. Et finalement, cela entraîne des handicaps qui vont handicaper l'histoire par la suite. Vous vous rattachez ça un peu au problème des déchets qu'on avait appris tout au début de l'année. Que chaque étape a une sorte de déchet qui se récapitule sur l'étape suivante. Okay ? Bon. Alors, la formule est la suivante. C'est que une des fonctions de l'exil, c'est de mettre en évidence les valeurs qui sont de l'ordre de l'identité d'Israël, mais qui sont déjà préalablement, elles, dans une sorte d'exil total en dehors d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël se met dans le cas d'avoir à être puni par l'exil, alors a posteriori, cette fonction va trouver son emploi. C'est-à-dire, il pourrait y avoir d'autres manières de sauver ces valeurs, pas forcément passer par l'exil. Mais a posteriori, si déjà l'exil est nécessaire d'autre part, alors ça va servir aussi à ça. Est-ce que c'est bien clair ? Bon. Ça, je vais reprendre d'ailleurs ce point d'explication. Alors, dans ce contexte du Talmud, il y a deux autres épisodes de la vie d'Abraham qui sont reliés au même contexte comme cause lointaine de l'exil pour sa descendance. Je ne vais pas en parler maintenant pour ne pas trop voir de choses à la fois. Donc, une de ces causes ici, nous l'avons dans ce contexte-là, c'est que ce que Moïse va faire à la sortie d'Égypte en emmenant avec lui le Elevrav, c'est le tikkun de ce qui s'est passé au temps d'Abraham, qu'on a laissé ce Elevrav en dehors. Vous savez, le principe est clair ? Comment ça fonctionne dans le détail historique de la destinée de chacun, ça nous échappe. Mais rappelez-moi ce que j'ai dit ce matin. Okay ? Mais c'est une identité humaine qui est en jeu dans ce thème historique. Et comment être sûr, si vous voulez, que telle personne qui se trouvait dans le Erevrab au moment de la sortie d'Égypte, c'est bien la réincarnation de telle personne qu'Abraham avait laissée dehors, ça nous échappe. Mais ce que nous pouvons comprendre, ce que nous devons comprendre, c'est le thème historique à l'échelle collective. Est-ce que c'est clair, ce problème ? Ça y est, c'est clair ? Je vais citer quelque chose d'autre que vous avez certainement entendu d'autre part et que vous relirez au même problème. Par exemple, quand on dit que toutes les Neshamot, des convertis de quelques siècles que ce soit, se trouvaient au pied du Sinaï au moment de la révélation du Sinaï, vous avez entendu ça, je suppose, okay. Ben, c'est relié au même genre de problème. Et comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne, c'est un autre problème. Mais c'est le thème d'identité qu'il faut comprendre. Est-ce que c'est clair ? Vous avez là deux sources. Qui sont ces guérims qui viennent en Israël ? La première source, c'est ce rechouche qu'Abraham a laissé en dehors. La deuxième source, c'est ce que je viens de vous citer. C'est les Neshamot qui étaient au Sinaï en même temps qu'Israël. L'une des sources parle par là du point de vue du principe de la constitution de la nation et l'autre du point de vue de la Torah. Mais finalement, c'est le même enseignement, dans deux formules différentes. Est-ce que c'est clair ? Bon. Alors, ceci est nécessaire pour comprendre l'importance de l'initiative de Moïse, prenant l'initiative du Erevrav à la sortie d'Égypte. C'est déjà depuis le temps d'Abraham que se prépare cette nécessité. Okay ? Et alors, si Moïse n'avait pas pris ce Erevrav, eh bien, il s'agit de cette histoire qui commence avec Abraham et qu'il faut bien qu'un jour elle ait son issue. C'est clair ? C'est-à-dire, c'est ce Nefesh-là du temps d'Abraham qu'il faut sauver en même temps qu'Israël. Alors, si ça ne se fait pas à la sortie d'Égypte, toute l'histoire de la sortie d'Égypte est privée de sens, toute l'histoire de l'exil d'Égypte est privée de sens, en tout cas sur ce point-là. Et il faudrait recommencer. Vous voyez donc l'importance de l'initiative de Moïse pour améliorer l'histoire d'Israël. Est-ce que c'est clair? Où était la difficulté ou l'empêchement qui ferait que si on avait posé la question « qu'est-ce que dit la halakha ?» la halakha aurait dit non, c'est qu'ils n'étaient pas assez préparés. Vous y êtes? Mais finalement, le fait de les faire sortir, ça passe avant les handicaps qu'ils vont introduire. Vous avez compris le problème? Attends, là j'y arrive. Il nous reste la question, et pourquoi Abraham a agi comme ça? Parce qu'Abraham ne sait pas tout ça. Vous comprenez? Bon. Alors, là je vais me baser sur l'enseignement du Maharal en particulier, et suivant le principe suivant, c'est que... Et ça, nous avons un peu commencé à étudier ce thème-là. C'est que pour que l'identité d'Israël soit présente, il faut différentes étapes dans l'ordre des vertus, différentes midot, et Abraham est la première. Et vous vous rappelez de cela? On a vu la mida d'Abraham, mida d'Achesed, mais c'est pas encore, c'est le commencement, mais c'est pas encore l'identité d'Israël. Il faut la mida de Yitzhak, mida d'Adin. Elle est nécessaire en deuxièmement, mais c'est pas encore l'identité d'Israël. Il faut arriver à la troisième étape où ces deux midot sont unifiées dans celle de Yaakov, pour que l'identité d'Israël soit là, et alors a posteriori de Jacob, Isaac aussi, et Abraham aussi sont d'Israël. Vous vous rappelez de cela? Bon. Si chacune de ces midot, ou Abraham ou Isaac, agit de façon exclusive, de façon...